Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Bonjour Paulette, bonjour Chantal, bonjour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que à l'école, je n'aimais pas lire. J'avais peur de parler en public aussi, mais je n'aimais pas non plus l'école. Alors je suis là, grâce à la grâce de Dieu. Et pour partager le message d'aujourd'hui, parfois, si on doit attaquer Job, 42 chapitres, Ésaïe, 66, les deux livres des rois, c'est parfois hard. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un des plus petits livres de la Bible et lire un petit peu. Donc, j'ai choisi l'épître de Jude. Enfin, j'ai choisi. Le Seigneur m'a guidé parce que ça fait un petit temps qu'il travaille. Et j'ai pris l'épître de Jude, qui n'est pas la plus petite, mais c'est une des plus petites. Et nous lirons ensemble deux versets. Il y en a 25. On n'en lira que deux. Épître de Jude, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est juste avant l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est juste avant la fin du livre de la Bible. Jude, versets 1 et 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Dans la version seconde, c'est la charité, mais c'est le mot agapé, donc c'est vraiment le mot amour. Et jusque-là, la lecture biblique pour aujourd'hui. Je fais d'autres lectures. Vous verrez que je vais régulièrement chercher des références. Tracassez pas, notez pas, j'ai fait un petit papier avec toutes les références. C'est bien. J'ai bien travaillé. Je suis content. Enfin, que deux versets. Voilà. Alors, je voudrais, d'habitude, je prie après, mais je voudrais qu'on lise la deuxième strophe de ce chant qu'on vient de chanter. Parle, et pour que je comprenne ton enseignement divin, dans ta grâce souveraine, instrument par l'esprit, parle, et pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. C'est là ma prière pour nous aujourd'hui, que nous puissions vraiment être en accord pour appliquer cette parole. Deux versets. Enfin, je vous disais que bon, l'Épître de Jude est une des plus petites, un des plus petits livres de la Bible. Et Jude est tellement clair qu'il n'a pas besoin de plus de versets. Essayez de passer quelques jours dans cet épître et un peu décortiquer l'essentiel, parce qu'il met l'essentiel sans tourner autour du pot. Il dit juste ce qu'il a à dire. Et dans la continuité d'une lecture biblique suivie, je vous ai dit que Jude était avant l'Apocalypse et après les épîtres de Jacques, Pierre et Jean, qui sont aussi petites et qu'on peut lire aussi. Mais pour ma part, cette place dans la suite des livres est pour moi importante et primordiale parce qu'elle rappelle déjà ce qui a été dit, ce qui a été vécu. Et juste avant l'Apocalypse, et Jude, il n'y a rien de changé depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant, 21e siècle, où le soleil brillait déjà, c'était le même soleil, il n'y a rien de changé, c'est toujours la même chose. Alors j'ai appelé ce partage Jude, une lettre pour notre temps. Elle a été dite à cette époque-là, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Lettre, on est habitué, pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, il est marqué épître, c'est synonyme de lettre évidemment. Hein. Bon, je dis ça parfois pour ceux qui écouteraient cette prédication, ils disent c'est quoi une épître ? C'est une lettre. Et qui n'a vraiment plus, ce mot-là on n'utilise plus de nos jours, on ne dit pas on va envoyer une épître par courrier. Ça fait un peu comme on peut. De toute façon, on n'a plus de courrier, on envoie des SMS, on like, on fait tout ce qu'on veut, mais il n'y a plus de courrier. Et aujourd'hui c'est rare encore ceux qui ont des timbres à la maison, j'en ai encore pour les gens. Rare, c'est très rare. Mais bon, voilà. Mais au 1er siècle, la distribution se faisait évidemment à pied ou à cheval et était souvent remise en main propre. Il fallait absolument trouver le destinataire parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres. Enfin, j'ai pas été voir. Je ne pense pas. Je n'ai jamais entendu parler de boîte aux lettres. Et dans le Nouveau Testament, les épîtres portent parfois le nom de ceux à qui elles sont destinées. Donc, épîtres à Philémon, épîtres aux Romains, épîtres aux Corinthiens, etc. Et puis, il y a les épîtres qui portent le nom de celui qui l'a écrit, comme Pierre, Jacques, Jean, et puis notre fameuse épître de Jude. Mais qui était donc ce Jude ? Parce que hein, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y en a trois Judes différents. Il y a Jude, qui est l'un des 12 apôtres, et qui est soigneusement distingué de Judas Iscariote. Dans Jean 14, 22, vous aurez des notes. Jude, non pas Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous, et non au monde ?» Mais indiqué dans la liste des apôtres, il est comme le fils de Jacques, Luc 6, 16, et parfois appelé aussi Thaddée, et il est repris par ceux qui attendent la venue du Saint-Esprit dans Actes 1, 13. Je vous lis. « Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y a un deuxième Jude qui est signalé dans Actes 15, 22, surnommé Barsabbas. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabbas et Silas, homme considéré entre les frères. C'est ni l'un ni l'autre. C'est notre Jude à nous, frère de Jacques, qui n'est autre que le frère de Jésus. Ah, Jésus a des frères. Jésus a des frères et des sœurs. On lit dans Matthieu 13, 53 à 56. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Nous avons le même épisode dans Marc, l'épître de Marc, chapitre 6. Jésus a des frères et Jude fait partie de ceux-là. Et nous lirons qu'à cette époque, les frères de Jésus n'étaient pas très chauds pour ce qu'ils disaient. Dans Marc 3, 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qu'il se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient il est hors de sens. Dans son père et sa mère, ils étaient déjà pas là. Pourtant, Marie avait été avertie. Et dans Jean 7, 3, 5, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Personne ne croit en lui, même pas ses frères. On n'est pas aimé dans sa famille. Jude, donc frère de Jacques, frère du Seigneur, et nous retrouvons aussi une référence dans Galates 1, 19, qui parle du frère du Seigneur, auteur de la lettre, donc portant son nom, se convertira plus tard. Et oui, certainement après la mort et la résurrection, vu qu'on le retrouve dans la famille qui attend le Saint-Esprit. Le texte que nous avons déjà lu, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et les frères de Jésus. Donc, Jude étant frère de Jésus, il est là en prière. Il doit s'être converti certainement après résurrection, mais d'emblée, pour qu'il puisse écrire cet épître, il fallait qu'il soit converti quand même, parce que écrit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Dans certaines versions, il fait marquer esclave de Jésus-Christ, qui est la même chose. On est serviteur, on est esclave de Jésus-Christ, mais pas esclave attribué, non. On est serviteur, et il nous considère comme ses amis. Et nous avons vu la semaine dernière, le disciple n'est pas plus grand que son maître, et le serviteur pas plus que son seigneur. Donc, Jude est soumis à Jésus. Jude est soumis à Jésus, il est non seulement son frère, mais aussi son serviteur. Après s'être parfois violemment opposé à lui, il est devenu son disciple. Parfois le plus ardu comme ça, qui rechigne contre Jésus, quand ils se convertissent, sont vraiment des gens très engagés. Et oui, il ne suffit pas de porter le nom de la famille de Jésus pour être comme lui, ou pour être sauvé, tout simplement. Il faut l'avoir accepté comme son Seigneur. Son Seigneur, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ceci dit, l'expéditeur de la lettre, que nous dit-il, lui, des destinataires. À qui parle-t-il ? Verset 1, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Version barbiste, que j'aime bien, d'ailleurs. Aux appelés, bien-aimés en Dieu. Bien-aimés, je trouve ça génial. Bien-aimés en Dieu le Père et conservés en ou par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. Vous remarquerez en lisant toute l'épître de Jude qu'il utilise ce qu'on appelle des triades. Triade, c'est un groupe de trois fois, trois mots différents ou trois groupes de phrases qui sont reliés entre eux. Et ça, à pratiquement tous les versets. On en verra plus tard. Hein. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, appelé, bien-aimé et conservé. La miséricorde, l'amour et la paix, etc., etc. On est qu'aux deux versets. Hein. Il y en a d'autres. Lisez toutes les pistes, vous les retrouverez. Revenons à notre premier verset, évidemment, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Ils ont été appelés. Aux appelés. Hein? Appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais... Notre frère nous l'a rappelé. Il faut passer par la porte étroite. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et cette phrase est la conclusion d'une parabole de Jésus en Matthieu 22. Et la parabole, c'est dite des noces qui rapporte qu'un roi qui fait un banquet invite des gens, des appelés, les personnes qui viennent. Et quand on lit bien, ils ne s'inquiètent pas. Bon, je ne peux pas y aller. Et Dieu les appelle, et il appelle, et il appelle. Et puis après, bon, je n'appelle plus. Je vais prendre ceux qui sont dans les rues, quoi. Et on aura certainement l'occasion de partager aussi cette parabole parce qu'elle est très riche. Et Dieu appelle les hommes à se tourner vers lui, à se réconcilier avec lui. Mais peu s'en inquiètent. Ils préfèrent se retourner, comme on a dit la semaine dernière, vers des fables ou des philosophies, plutôt que de croire Dieu sur parole. Et l'épître de Jude s'adresse à ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés. Est-ce que tout le monde est appelé ? Bien sûr que non. Rappelez-vous les fameuses triades, il ne faut pas non plus prendre qu'un seul mot. Il faut prendre tout le groupe. Ceux qui sont appelés et qui sont aimés. Les bien-aimés de Dieu. À ceux qui sont appelés et qui sont aimés. Les deux. Un seul a été désigné comme le bien-aimé. Le bien-aimé. Au singulier. Vous savez c'est qui ? Jésus, mon fils bien-aimé, le bien-aimé, le seul, c'est Jésus-Christ. Pour désigner les bien-aimés, généralement, en termes pluriels, les psaumes utilisent les bien-aimés pour le peuple d'Israël, et en général, dans le Nouveau Testament, quand on appelle les bien-aimés, sont les chrétiens. Parfois, on trouve, ils s'appellent hein, bien-aimés. À tous ceux qui sont à Rome, dans Romains 1, qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, les bien-aimés. Dans son amour, Dieu a appelé tous les hommes et toutes les femmes à se tourner vers lui, mais seuls ceux qui ont répondu à l'invitation sont appelés bien-aimés. Et Jésus, parlant de son retour et du jugement des nations, on en a parlé déjà un peu avec qui, venez vous qui êtes bénis, vous qui êtes bien-aimés, venez vous qui êtes bien-aimés de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous connaissez la suite. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli, etc. Et enfin, nous avons été aimés et nous avons été gardés. Nous avons été conservés pour certaines versions. Et pour nous éclairer, je vais prendre ce que Guy a dit. Laisser parler Jésus pour voir ce mot conservé. Un petit peu d'éclairage dans Jean 17, la prière sacerdotale. Je laisse parler Jésus. Verset 6 de Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je veille à toi. Père Saint, Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition. Afin que l'Écriture fût accomplie. Et verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les garder loin du mal. Vous êtes, nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Verset, l'ange de l'Éternel, mais c'est la fête, campe autour de ceux qui le craignent. On est appelé, aimé et gardé. Trois choses que Dieu a effectuées au travers de son Fils. Dans son ministère terrestre, Jésus a fait l'exemple de cette triade. Il a appelé ses disciples, il les a aimés, il les a gardés, sauf un, le Fils de la perdition. Dans son amour, Dieu a tout fait pour sauver tout le monde. Mais dans leur orgueil, il y en a qui ne seront pas sauvés. Et dans notre lettre, Jude écrit à tous ceux qui se retrouvent dans cette triade, appelés, aimés et gardés. Je vous disais au début, il n'y a pas de restriction géographique ni de temps. Cette épître s'adresse bien à vous. Une lettre pour notre temps, pour les chrétiens du XXIe siècle. Bien évidemment, si vous êtes convaincu d'avoir été appelé, aimé et que vous êtes gardé. Et oui, on vient de terminer le premier verset. Et je me suis dit, je pense que je vais faire une des plus longues prédications sur cette petite lettre. Mais je m'arrêterai après le deuxième verset. Si vous voulez bien, on continuera un peu plus tard. Deuxième verset que voici. Que la miséricorde, la paix et la charité, l'amour, vous soient multipliés. Nous retrouvons encore cette triade. Et on a l'habitude d'entendre, généralement, dans les salutations, que la grâce, la paix et l'amour soient donnés. La grâce, mais rarement la miséricorde. Je ne sais pas si ça vous a frappé en lisant ces deux versets. Rarement la miséricorde, et seules les salutations de 1 Timothée, 2 Timothée et 2 Jean, et de Jude, bien sûr, utilisent ce mot miséricorde à la place de grâce. Et si on lit bien ces quatre lettres, elles ont un contexte de lutte contre les fausses doctrines. Donc le thème est assez proche de ce que nous vivons maintenant. Et c'est ce qui fait dire à un commentateur que le chrétien a besoin de cette miséricorde dans les temps où nous vivons. Non seulement pour sa nouvelle naissance, non seulement pour le jugement, mais aussi pour toute sa vie. Tous les jours, nous avons besoin de la miséricorde. Miséricorde, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un dictionnaire, sensibilité au malheur d'autrui. Bon, la compassion, la miséricorde. Et puis il y a un deuxième point, pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Qui peut être miséricordieux? En tant qu'homme, être sensible au malheur des autres, ça, on peut l'être, ça peut le faire, mais pardonner aux coupables, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, hein. On pardonne mais on n'oublie pas. Je crois qu'il faut vraiment être touché par la grâce de Dieu pour vivre cette miséricorde. Et la Bible nous dit que l'Éternel, on a déjà parlé que l'Éternel était un grand Dieu, l'Éternel est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et souvent, l'adjectif miséricordieux est lié à compatissant. Notre Dieu est compassion et miséricordieux. Non seulement il est grand, il est bon, il a amour, mais il est compassion et miséricordieux. Et j'ai encore laissé parler Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit de la miséricorde? Où trouvons-nous la première fois que Jésus parle de la miséricorde? Question, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Être miséricordieux, c'est avoir de la pitié. Et chaque fois qu'on entend dans la Bible avoir pitié, et pitié, c'est comme une demande de miséricorde. Bartimée, aie pitié Seigneur, accorde-moi ta miséricorde, regarde, pardonne-moi, aide-moi. Nous devons, nous aussi, être miséricordieux, être sensibles à la misère des autres. Demande pas de prendre toute la misère du monde, c'est pas possible. Un minimum est quand même requis. Il me semble. Et pourquoi donc? Parce que suppose d'être miséricordieux, comme ça. Luc 6, 36, Sermon sur la montagne, version Luc. Soyez donc miséricordieux, donc, comme votre Père est miséricordieux. On doit l'être parce qu'il est miséricordieux. Parole de Jésus, et qui condamnera les faux chrétiens. Pas toujours gentil, Jésus, hein? Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On oublie ce mot miséricorde, hein. Ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et Jude l'a certainement compris. Alors pourquoi mettre la miséricorde à la place de la grâce? La grâce est quand même bien, non? Rappelons-nous qu'il s'adresse à des chrétiens qui ont été appelés, aimés et gardés, à ceux qui ont déjà été graciés, à ceux qui ont accepté d'être disciples, qui ont accepté d'obéir rapidement. Mais pour l'homme et la femme, bien sûr, la miséricorde n'est pas un état naturel. On ne naît pas miséricordieux. Il faut le devenir. Il faut que Jésus nous aide. Et ça s'apprend. Et Jésus encore nous le dit, allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». On doit apprendre, apprendre à ce que c'est, à faire la différence entre la miséricorde et le sacrifice. Parfois, on fait des choses comme « Ah, on l'a fait, c'est pour le Seigneur !» Mais de la miséricorde, c'est ce que Jésus demande. Dieu est miséricordieux, c'est pour cela qu'il nous donne sa grâce. Lui, il est miséricordieux avant. Dans son plan du salut, il a aimé l'humanité. Il avait de la miséricorde. Il avait de la compassion. Dieu a tant aimé le monde. La miséricorde, la compassion. Il a donné son Fils, la grâce, afin qu'il croit en lui la vie éternelle. Pour le chrétien, c'est le contraire. La grâce doit précéder la miséricorde. On ne peut pas être miséricordieux avant d'être gracieux. Oh, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui donnent. Oui, il y a des œuvres humanitaires. Mais Dieu gracie avant que nous devions miséricordieux. Remarquez que pour Jude, dans ce verset, il ne dit pas qu'elle l'est donnée. Si vous voulez, on relit le texte. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Pas vous soit donnée. Elle est multipliée. Alors, si je fais un petit cours de mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. 2 fois 2 fait toujours 4. Mais 2 plus 2, 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, c'est exponentiel. Multiplié, Dieu est multiplié. Multiplié, multiplié cette miséricorde. Nous avons tous besoin que notre regard sur l'autre soit davantage sensible, pour que les jours que nous vivons actuellement, qui ne sont pas faciles, passent avec la miséricorde. Et Jude en était bien conscient. C'est pour ça que j'ai dit que cette épître est une épître pour notre temps. Et quand j'ai débuté ce partage, j'avais écrit les 7 premiers versets. J'avais pensé partager avec vous 7 premiers versets. Le Seigneur a décidé autrement. Je vous réserve la suite à plus tard. J'espère que vous en êtes sur votre fin et que vous irez relire cette épître. Alors, à vous qui êtes appelés, aimés et gardés, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés dans le nom de Jésus. Et ça pour la gloire de Dieu. Amen. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous rappelles ce petit mot parfois qui est un peu perdu, miséricorde, et combien important pour nous. Oh Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi pour que nous puissions voir les autres comme toi, tu les vois. Mais qu'à toi revienne encore une fois toute la gloire, Seigneur, de nos actes, et pas de nos sacrifices, mais de notre miséricorde. Amen.